À Vue d'Esprit, Pierre-Yves Moret, bonjour à vous. Cette semaine, nous allons parler de religion et de sexualité. Comment les religions perçoivent-elles la sexualité ? Comme un péché, comme un moyen de parvenir au nirvana, ou comme une dimension de l'humain qui nous ramène à l'animal ou au contraire qui touche au sacré ? Sacré sexualité, c'est le titre de cette série que nous propose Catherine Erard. Aujourd'hui, nous nous intéressons au mythe grec. La réalisation est signée Sylvain Michel et Stéphane Tornard. Bienvenue pour cette nouvelle semaine à Vue d'Esprit que vous nous proposez, Catherine Erard, bonjour.
Bonjour.
Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de traiter de la sexualité et de la religion cette semaine ?
Eh bien parce que toutes les religions parlent de sexe, alors pas forcément pour en tirer du bien d'ailleurs, souvent en termes d'interdits. Pourtant la sexualité touche également à la vie, elle nous rappelle que nous sommes mortels, elle touche au plaisir, vous rajoutez de la religion par-dessus, vous avez évidemment un cocktail explosif. Et cela touche à la place de la femme. Alors là, je ne m'attendais pas à ce que cela soit aussi massif, mais le regard porté sur la sexualité, le regard porté sur les femmes est très très proche dans les religions. Je me suis donc demandé comment les différentes religions considèrent la sexualité.
Alors évidemment, la question des religions est très large et vaste. Vous avez dû choisir un certain nombre de religions, contingenter le problème.
Évidemment, et c'est loin d'être exhaustif. Ce que j'ai voulu faire, c'est choisir des religions qui offrent un contraste par rapport à notre culture. Donc je me suis tournée vers l'Asie. On entendra le regard de l'hindouisme sur la sexualité, ça c'est pour mardi, et le taoïsme, donc un regard d'une religion traditionnelle chinoise, pour mercredi. Pour le christianisme, je vous propose l'interview jeudi et vendredi d'une personnalité vraiment étonnante. C'est la première religieuse docteur en sexologie. Il s'agit de Marie-Paule Rose, une Québécoise qui est auteure d'un ouvrage qui a été numéro un des ventes au Québec. Je voudrais vous parler d'amour et de sexe, donc c'est pour la fin de la semaine. Là, on sera moins académique, mais beaucoup plus sur des problématiques contemporaines.
Alors aujourd'hui, nous l'avons dit, nous allons commencer par nos racines grecques.
Oui, parce que c'est nos racines. Comme vous le dites, et notre approche occidentale de la sexualité est marquée par le christianisme, beaucoup, mais également par la philosophie grecque, y compris à l'intérieur même du christianisme. Vous allez vous en rendre compte.
Et qui est votre invité ?
Il s'agit de Philippe Mathé, il est chargé d'enseignement en histoire des religions à l'université de Genève. C'est un spécialiste de la religion grecque antique. J'ai commencé par évoquer avec lui les mythes de création grecque et comment ceux-ci expliquent le fait qu'il y ait des hommes et des femmes.
Tout commence en fait en Grèce antique par la naissance de la création, disons, des éléments constitutifs du monde. Les premiers éléments, ce sont chaos, l'abîme béant, la potentialité du temps et de l'espace, si vous voulez, Gaïa, l'assise terrestre sur laquelle le reste du monde va se construire, et Eros, qui est un principe qui va pousser les autres divinités, les autres entités à se reproduire et à se diviser, à se multiplier. Avec Eros, il y a les premières mises au monde qui vont se faire, notamment, je vais me concentrer surtout sur Gaïa qui tire d'elle-même Uranos d'un côté, le ciel, Pontos, la mer, et les montagnes aussi. Et c'est à ce moment-là qu'a lieu la première union sexuée, si vous voulez, entre Uranos, le ciel, et Gaïa, la terre-mère. Et c'est cette union-là qui va donner naissance à toute la génération des dieux, des titans d'abord, ensuite des dieux olympiens à la deuxième génération. Donc cette union d'Uranos et de Gaïa, poussée par le désir instillé par Eros, se fait de manière disons total, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace qui se crée, qui existe entre Uranos et Gaïa. L'union est permanente et on le devine parce qu'en fait le récit qui nous raconte ça, c'est la Théogonie d'Hésiode. Hésiode nous dit que les enfants de Gaïa sont refoulés au fond du giron de leur mère, ils peuvent pas sortir au jour en fait. Ils sont donc il y a les titans, il y a les cyclopes, il y a encore d'autres sortes de créatures. Au point que Gaïa, à un moment, pour se libérer, va inventer la ruse, d'un côté, Métis, et le métal, et avec les deux, en fait, va fabriquer une arme, une serpe, et qu'elle va donner cette arme entre les mains de son plus jeune fils, Cronos. Et c'est Cronos qui va castrer son père, il va d'un coup de serpe lui trancher son sexe. Par cet acte, en fait, il repousse Uranos de Gaïa. Donc le ciel prend sa place qui est la sienne, justement, au-dessus de la terre, très éloigné, et permet justement la naissance de tous les enfants qui étaient gardés jusque-là dans le giron de Gaïa. Et de cet acte aussi, la trace qui reste, c'est le phallus tranché qui est jeté dans la mer par Cronos. Des gouttes de sang qui tombent de ce phallus tranché tombent sur la terre et donnent naissance à diverses divinités qui sont, ou entités si vous voulez, qui sont des entités plutôt de la violence. Donc ils donnent naissance aux géants qui sont la personnification de la sauvagerie, de la violence. Ils donnent naissance aux nymphes méliennes, des nymphes d'Ifrène dont on fait des lances, donc des nymphes guerrières. Et ils donnent naissance aux Erini qui sont les divinités de la vengeance familiale. Mais aussi, une fois qu'il est tombé dans la mer, le phallus bouillonne, se mélange à l'écume de la mer, et de cette écume, c'est Aphros en grec, va naître au bout d'un moment Aphrodite. On assiste à une remise en place, si vous voulez, des éléments érotiques, donc il n'y aura plus d'union permanente. Il faudra désormais une approche, une séduction pour qu'il y ait une union sexuelle, et cette séduction, elle est personnifiée par Aphrodite.
Quand on évoque les mythes de création grecque, spontanément, on pense au récit de l'androgyne, où hommes et femmes étaient un et ils ont été coupés en deux. Ça existe, ce récit-là aussi ?
Oui, c'est un récit en fait, qui existe dans le Banquet de Platon. C'est vrai que c'est un mythe qui a beaucoup de succès chez nous, en tout cas, puisqu'on le réutilise souvent, moi je l'entends tout le temps, en tout cas aux cérémonies de mariage, pour montrer justement qu'on cherche toujours sa moitié et qu'on était au début unique et on a été séparés en fait par les dieux. Cet androgyne qui avait quatre bras, quatre jambes, il est censé être justement à la fois masculin et féminin. Il aurait été séparé par jalousie des dieux qui voyaient en lui un être trop parfait, qui aurait, ils ont porté atteinte à leur... Alors toute puissance à eux. Enfin, c'est le mythe raconté par Aristophane dit, voilà, cette disons, jalousie des dieux a fait que les hommes ont été séparés en deux parties et doivent passer maintenant toute leur vie à essayer de retrouver leur autre moitié pour de nouveau être quelqu'un de potentiellement unique. Et c'est vrai que c'est un mythe qui n'existe que dans le Banquet de Platon. C'est pas un mythe très répandu.
Dans ces mythes-là, ce qu'on entend, c'est que finalement, le fait qu'on soit homme et femme... c'est qu'on est en situation de manque, c'est qu'on est imparfait. On n'est pas dans l'idée de punition, hein, comme, mais on n'est pas loin non plus. C'est un mal, c'est pas un bien.
Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est là qu'il faudrait, je pense, parler du mythe de Pandore. Pandore, c'est une punition envoyée par les dieux. Si on reprend le mythe de la Théogonie d'Hésiode, on parle un peu rapidement sur tout ce qui se passe, la génération des dieux, Zeus qui vient au pouvoir, et on en arrive à l'idée que Zeus et les hommes, en fait, mangent à la même table, et ils ont l'habitude de vivre ensemble. Mais à un moment, il y a une rupture qui se fait, c'est le mythe de Prométhée, qui essaye de tromper Zeus en fait en lui donnant à manger des aliments qui sont pas mangeables et Zeus se fâche mais il avait vu la ruse à l'avance en fait donc c'est quelque chose une décision qu'il a prise pour si vous voulez séparer les hommes des dieux pour que les deux soient différents. C'est une explication de la condition humaine. Donc je passe rapidement sur l'histoire du vol du feu par Prométhée, parce que Zeus, fâché justement de cette tromperie à table, retire le feu aux hommes. Prométhée est obligé d'aller le chercher de nouveau, d'aller chercher un nouveau feu, en fait, un feu technique, un feu qu'il faudra alimenter par la technologie humaine. Il invente la culture, en fait, si vous voulez, toutes les pratiques, les artisanats, tout ce qui permet à l'homme de survivre. Et en réponse à ce vol du feu, Zeus prend une décision terrible qui est de créer la première femme. Parce qu'auparavant, on sait pas trop. Il y avait des femmes où il n'y en avait pas, c'est pas vraiment précisé dans le mythe, disons. Mais enfin, il y avait des hommes, ils étaient peut-être quasiment immortels. Et le fait qu'on crée la femme, en fait, c'est la femme sociologique qui est créée avec Pandore. C'est vraiment toute la femme avec ses attributs de séduction. Et ça va obliger les hommes à devoir se reproduire, en fait. Alors qu'avant, ils n'en avaient pas forcément besoin.
Et donc à être mortel.
Et donc à être mortel, c'est ça aussi, ouais. C'est assez bien raconté par Hésiode, justement, dans Les Travaux et les Jours, de ses œuvres, qui se lamente, justement, sur le fait que Pandore a été envoyé aux hommes et que depuis, en fait, il n'a pas le choix. Soit il reste sans femme, et il reste seul pendant toute sa vie, et dans ce cas, il a la paix, il est tranquille, mais après, il n'a pas d'enfant. Et donc, une fois qu'il meurt, tout son patrimoine se dissout, et plus personne n'est là pour l'utiliser. Donc c'est une vie qui a été passée en vain, qui sert à rien. C'est une économie rurale, donc on est vraiment avec Hésiode dans l'importance du patrimoine. Tandis qu'avec la femme, Alors il faudra la supporter, ce qui est, selon Hésiode, une chose absolument affreuse, parce que sur 10 femmes, il y en a une seule qui est un bon type de femme, qui est la femme, si vous voulez, la femme abeille, la femme qui s'occupe de sa maison comme il faut et qui est productive elle-même. Mmh. Les autres femmes sont des ventres qu'il faut remplir, qui sont insatiables, comme des foyers dans lesquels on jette l'argent et la nourriture, mais qui se remplissent jamais. Donc qui consomment tout le patrimoine de l'homme, mais qui lui permettent d'avoir des enfants à qui on pourra quand même transmettre quelque chose, le peu qu'il reste, qui n'aura pas été dévoré par la femme. C'est une vision extrêmement caricaturale, si vous voulez, de la femme. Mais c'est la vision, disons, d'Hésiode au 7e siècle à peu près, avant Jésus-Christ.
Philippe Mathès, si on parle de la représentation que les Grecs avaient du corps de l'homme, du corps de la femme, anthropologiquement, qu'est-ce qu'on en savait ?
On en savait assez peu, en fait, de choses. Les conceptions étaient peut-être encore un peu floues. Il y a différentes époques, en fait. Si vous voulez, on a à peu près, à l'époque de l'Athènes classique, de l'Athènes de Périclès, celle des grands tragédiens, on a des pièces qui nous racontent des tragédies, qui nous mettent en scène justement la grande question de est-ce que c'est le père qui est vraiment responsable de la génération des enfants ou est-ce que c'est la mère. Ça, c'est raconté dans la trilogie de l'Orestie, par exemple, où le héros Oreste doit choisir entre venger son père ou respecter sa mère. Parce que Clytemnestre, sa mère, a tué son père Agamemnon lors de son retour de la guerre de Troie. Et donc il est obligé de la venger, mais en la vengeant, il va commettre un crime de sang qui est très grave et il va se faire poursuivre par les Erinnies. Ce qui se termine par le fait qu'il doit être jugé par un tribunal des dieux et des citoyens. Le vote, à la fin, justement, porte sur le fait qu'est-ce qui est le plus important, le père ou la mère. Dans cette pièce, on nous dit, c'est une des conceptions de l'époque, mais c'est pas forcément la plus répandue, que, en fait, la mère n'est qu'une jarre, si vous voulez, dans laquelle le père va déposer la semence qui va naître. Et donc tout l'être humain, en fait, ne dépend que de la semence du père. La femme n'est là que pour accueillir, comme un four ou comme une jarre dans laquelle l'enfant peut se développer. Mais elle n'est pas du tout responsable, donc on pourrait très bien s'en passer. Ça, c'est une vision du corps féminin du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et après, avec les premiers traités médicaux, beaucoup plus tard, avec Aristote, en fait, au 3e siècle avant Jésus-Christ, et ensuite avec les traités d'Hippocrate, Galien, enfin d'autres médecins, on développe une étude beaucoup plus basée sur, de plus en plus basée sur l'expérimentation scientifique, ou l'observation en tout cas. Il n'y a pas d'autopsie, si vous voulez. Mais là, on commence à se dire, effectivement, la femme fonctionne peut-être différemment, et il y a, à part égale, le corps de la femme et le corps de l'homme fournissent tous les deux, disons, la matière qui permettra de construire l'enfant. Et à partir de ce moment-là, on prête plus attention à la manière dont le corps de la femme fonctionne. Et c'est là qu'est inventé, notamment, le concept de l'hystérie, de cet étrange animal qu'est l'utérus dans le corps de la femme, qui est considéré comme une espèce d'une entité à part entière qui pourrait se déplacer, en fait, dans le corps de la femme une fois qu'elle a eu ses premières règles. Mmh. Et là, il y a toute une tradition qui est à la fois dans le domaine de la magie. On a des exorcismes contre l'utérus, justement, pour lui dire « reste en place, ne bouge pas, arrête de rendre malade cette jeune femme ». Et dans la tradition médicale, des traitements pour justement calmer cette maladie de l'utérus, qui peut être, cette hystérie est considérée comme très grave, parce qu'on raconte aux jeunes filles que si elles sont atteintes d'hystérie, elles risquent fort de se pendre, d'être prises de folie, en fait, par cet animal qui se déplace à l'intérieur de leur corps, et donc de finir par se suicider. Et le seul traitement recommandé par les médecins grecs de l'Antiquité, c'est simple, c'est qu'il faut avoir des enfants le plus vite possible. Et donc, pour qu'une femme, une jeune femme, dès qu'elle a ses règles, on lui dit, voilà, maintenant, tu as très peu de temps avant d'être atteinte d'hystérie, il va falloir vite se marier, avoir des enfants pour lester l'utérus, pour le faire rester en place, l'obliger à rester en place. Et une fois que les premiers enfants auront été enfantés, à ce moment-là, il n'y aura plus de problème et donc le danger de l'hystérie sera passé. Mais vous voyez que c'est un discours qui est pas tellement basé sur une science médicale, plutôt sur une idéologie du contrôle, disons, masculin sur les femmes.
Parce que sociologiquement, en Grèce, on a des citoyens, on a des esclaves. Les femmes, elles sont placées où là ? Il y a des femmes citoyennes, des femmes esclaves. Elles sont dans quelle catégorie ?
Les femmes, c'est vrai que dans la cité athénienne, puisque c'est là qu'on a le plus d'exemples et de plus de documentation, donc en général on parle de ça, dans la cité athénienne, elles peuvent être citoyennes, si elles sont d'assez bonne naissance, si vous voulez, mais elles n'ont pas de droit politique, elles ne peuvent pas exercer de droit politique. Et quand elles essayent, ça se passe très mal, comme dans les comédies d'Aristophane, où on décrit justement une tentative des femmes de faire un coup d'État, ou alors une autre tentative des femmes de contrôler la politique par une grève du sexe dans l'Isistrata. Mais normalement, elles n'ont pas droit de politique dans la réalité et elles ne sont pas censées participer aux décisions. Alors, elles sont en fait là uniquement pour donner naissance à des citoyens. Donc il y a des femmes citoyennes qui sont censées en fait rester à l'intérieur de la maison. Les femmes qui sortent de leur maison sont le plus souvent des prostituées. La mère de famille athénienne est censée rester dans sa maison. Elle n'en sortira que pour certaines occasions religieuses. Alors il y a beaucoup de religions, il y a beaucoup de fêtes de toutes sortes, donc il y a quand même beaucoup d'occasions de sortir. Mais enfin, en théorie, elle est censée rester gérer, si vous voulez, l'oikos, le domaine familial. Un des mythes assez intéressants, je trouve, dans la mythologie grecque par rapport à la sexualité, c'est le mythe de Tirésias. Donc Tirésias, c'est un devin très célèbre qui joue un rôle dans plein de mythes différents. C'est notamment celui qui a révélé à Édipe qu'il était le fils de sa mère et qu'il l'avait épousé ensuite. Mais dans sa jeunesse, Tirésias n'était pas encore un devin. Et il se promenait en Grèce, dans la forêt, dans la montagne. Il serait tombé sur deux serpents en train de s'accoupler. Et il les aurait frappés de son bâton et tués. Et les dieux n'auraient pas apprécié ce geste, parce que les serpents sont souvent des créatures sacrées, et donc l'auraient puni en le transformant en femme. Donc déjà l'idée de punition en transformant en femme est assez représentative. Mais voilà que Tirésias se retrouve en femme, et il est condamné à rester dans ce corps pendant plusieurs années. Alors on ne sait pas exactement ce qu'il fait, mais enfin, apparemment il se marie, il a des enfants peut-être. Enfin il vit une vie de femme, jusqu'au jour où il recroise sur son chemin deux serpents, qu'il tue à nouveau, et ce qui annule la transformation et lui permet de revenir à son état d'homme, de mâle. Et ensuite, étant donné qu'il a eu cette expérience particulière, il est invoqué à la rescousse pour servir de juge dans une querelle entre Zeus et Héra. La querelle de savoir qui, de l'homme ou de la femme, a le plus de plaisir lors de l'union sexuelle. Et donc, Zeus et Héra ne sont pas d'accord sur ce point. On ne sait pas quel est leur avis chacun. Mais enfin, c'est à Tirésias qu'ils vont demander la réponse à cette question, puisque c'est le seul qui a eu les expériences des deux côtés. Et donc Tirésias répond, on a plusieurs manières de répondre, mais enfin, une des réponses qu'il donne dans une des versions, c'est s'il devait y avoir 10 parts du plaisir sexuel, l'homme en aurait une et la femme en aurait 9. Donc, c'est clairement la femme qui a le plus de plaisir lors de l'union sexuelle. Alors, ce qui est étrange, c'est que apparemment, c'est une réponse qui met Héra dans une colère noire, puisque c'est un secret que, normalement, il ne fallait pas révéler. Et donc, elle punit Tirésias en l'aveuglant, en le privant de la vue. Et Zeus, par contre, est très content de savoir ça, et va récompenser Tirésias en lui accordant le don de seconde vue. Donc, il est aveugle, mais il aura la possibilité de prédire l'avenir et de voir la réalité de la volonté des dieux. Mais le mythe en lui-même, c'est de nouveau une manière grecque de raconter que les femmes, a priori, si on les laisse décider par elles-mêmes, comme elles ont 9 parts de plaisir sexuel, elles vont vouloir faire l'amour tout le temps. Donc c'est quelque chose de très dangereux. Et c'est une des raisons, de nouveau, de dire, il faut que les hommes exercent un contrôle sur les femmes, parce qu'eux, ils peuvent encore garder la tête froide et maîtriser leurs instincts, tandis que pour les femmes, c'est absolument pas possible.
On retrouve la femme plus proche de l'animalité.
Exactement, c'est une des manières, un des mythes grecs qui explique encore cette histoire.
Quand on parle de sexualité du monde grec, on pense assez rapidement à l'homosexualité, au rite d'initiation des jeunes gens. Qu'est-ce qu'il en était ?
Alors, c'est une bonne occasion pour dire quelque chose dont j'ai oublié de parler au début. C'est que la catégorie de sexualité, en fait, n'existe pas vraiment en Grèce ancienne. C'est une catégorie qui n'est pas pensée à part des autres. Le mot qui se rapprocherait le plus de sexualité, c'est les choses d'Aphrodite, ce qui a trait à Aphrodite, ta aphrodisia. Et donc, l'homosexualité ou l'hétérosexualité ou la bisexualité sont des catégories qui n'existent pas. Aucune personne en Grèce n'aurait l'idée de se définir en tant que hétéro, homo ou bisexuel. Et donc, l'homosexualité, quand on l'étudie, évidemment, elle existe, la pratique homosexuelle, elle existe. Elle est même célèbre, puisque après, les Latins, les Romains, plus tard, ont appelé ça l'amour grec. Donc, c'était quelque chose de très commun et de très pratiqué dans la cité grecque. Mais c'était une question plus, en tout cas idéologiquement, qui appartenait à l'éducation. Du côté des gens de bonne famille, justement, pas forcément du côté des familles d'ouvriers ou d'artisans. Du côté des gens de bonne famille, tout jeune homme est censé devenir l'hérobène de quelqu'un. Donc c'est les deux catégories, en fait, si vous voulez, dans cette catégorie de l'homosexualité grecque. C'est l'hérobène d'un côté, celui qui est aimé, et l'héraste de l'autre, celui qui aime. Donc l'héraste est toujours une personne plus âgée qui choisit un jeune homme qui sera son hérobène et avec qui il entretiendra une relation amoureuse et érotique. Parfois plus l'un que l'autre, parfois les deux en même temps. La relation homosexuelle entre l'éducateur et l'éduqué devait pas se prolonger. À un certain moment, c'est vrai que l'homme doit se marier, le jeune homme doit se marier pour avoir des enfants, etc. Et c'est un des plus grands reproches qu'on peut faire à un citoyen grec, c'est de vouloir trop longtemps prolonger ce genre de relation. Ce sera un mauvais citoyen si, au lieu de faire son devoir de citoyen, d'avoir une femme et d'avoir des enfants, il va continuer à multiplier les aventures sexuelles avec des hommes ou des femmes. Dans ce cas-là, il est présenté comme un kunaidos, un personnage qui tombe sous l'emprise de ses instincts et qui n'est plus un bon citoyen. C'est le genre d'insulte qu'on lance en politique à des gens qu'on ne veut pas voir arriver au pouvoir. Donc on dit, voilà, cette personne n'a pas la maîtrise de son propre corps, comment est-ce qu'elle pourrait exercer un pouvoir politique ?
En ce sens-là, le tabou repose pas forcément sur certaines formes de sexualité comme dans notre civilisation, mais plus sur la gestion du désir sexuel, de ne pas être esclave de ça.
Exactement, ouais. C'est vraiment là-dessus qu'on met l'accent, sur le fait de garder, c'est l'importance de la liberté aux yeux des Grecs, le fait de garder une emprise, une maîtrise de ses sentiments. Et c'est le grand argument de l'idéologie grecque patriarcale, c'est que justement les femmes ne peuvent pas exercer de contrôle sur elles-mêmes parce qu'elles sont, par nature, elles sont beaucoup plus lascives que les hommes. Elles sont, enfin, leur menstrualité, par exemple, montre qu'elles sont du côté de la nature et qu'elles n'ont pas d'emprise sur ce phénomène biologique.
Donc, plus du côté de l'animal, si exactement. Je peux le dire comme ça.
Si on peut dire comme ça, ouais. C'est vraiment une construction grecque, si vous voulez, pour expliquer l'ordre du monde, mais c'est une construction grecque qui nous a poursuivis jusqu'à aujourd'hui.
Philippe Pintet, au terme de cette interview, on a quand même une vision assez négative de la sexualité. Elle est liée à la violence. C'est pas forcément bon qu'il y ait des hommes et des femmes parce que c'était mieux quand il y avait que des hommes et qu'ils étaient immortels. On voit dans les mythes que c'est pas forcément un plus. Est-ce qu'il y a quand même un discours positif sur la sexualité ou je dirais même sur l'altérité, le fait qu'on soit obligé d'être des hommes et des femmes ou pas du tout?
C'est là qu'on se rend compte en fait que peut-être on focalise parfois, enfin en tout cas moi je me suis focalisé sur tous les côtés les plus étonnants pour nous, disons de la culture grecque. Étonnants parce qu'ils sont à la fois très ressemblants à notre culture, ils voient justement, c'est vrai, la sexualité comme quelque chose d'assez complexe, d'assez, en tout cas qui simplifie pas la vie de l'humanité. Mais dans la pratique de tous les jours, dans les textes en tout cas qu'on a, il y a quand même, bien sûr, c'est quelque chose qui fait partie de la vie amoureuse. Enfin, il y a une vie amoureuse grecque qui est très, extrêmement louée, qui est présentée en des termes très flatteurs dans la poésie, notamment. Et beaucoup de ce qu'on a gardé, disons, de la poésie amoureuse grecque a influencé notre manière de raconter l'amour, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Le poème le plus connu, je pense, qui parle de l'amour et de la sexualité en Grèce, c'est celui de Sappho, justement, un des hymnes qu'elle a écrit, qui nous a été transmis, qui raconte justement son amour pour un homme qu'elle voit. Alors, on dit tout le temps qu'elle est lesbienne, mais en fait, là, en l'occurrence, elle s'adresse à un masculin, qui décrit justement le feu subtil qui court sous sa peau quand elle le voit, et le fait qu'elle devient aussi verte que l'herbe quand elle entend sa voix, On pourrait en faire une chanson moderne en fait, hein. Mais c'est quelque chose qui a été repris après par Racine dans sa Phèdre. Je rougis, je pâlis à sa vue, c'est directement tiré du poème de Sappho, qui est vraiment une manière, disons, de présenter l'amour comme quelque chose d'absolument... Alors, c'est nouveau ambivalent, parce que c'est vrai que c'est présenté, c'est la base de notre, un peu, si vous voulez, de notre conception romantique de l'amour, mais en même temps, c'est présenté comme quelque chose qui fait perdre le contrôle. Et ça, évidemment, dans l'idéologie des philosophes grecs, donc des pères de famille grecs qui dirigeaient la cité, c'est quelque chose qui est très négatif, ça, c'est vrai. C'est la perte de contrôle. Mais d'un autre côté, on a conservé quand même plein de témoignages qui font de l'amour et de la relation sexuelle quelque chose que tout le monde recherche et que tout le monde... Enfin, qui a une place très importante dans la vie de tous les jours. Et même Socrate, justement, a des amours féminins autant que masculins, mais il essaye justement de ne pas trop y céder. C'est toujours cette idée de la philosophie grecque du « jamais trop ». Il ne faut jamais tomber dans un excès, quel que soit l'excès. Et il ne faut pas non plus tomber dans l'excès de ne pas avoir de relations sexuelles du tout, ce qui est très mauvais. C'est vraiment toujours dans la mesure en toute chose.
Philippe Matté, chargé d'enseignement en histoire des religions à l'université de Genève et spécialiste de la religion grecque, entre autres. Alors Catherine Erard, le tabou porte donc sur le fait d'être submergé par le désir sexuel, le fait de perdre le contrôle en fait.
Eh oui, il faut tout contrôler, il faut se contrôler. Évidemment, c'est un petit peu nos racines culturelles qu'on retrouve là.
Alors demain, nous allons quitter nos racines pour parler d'une autre religion, l'hindouisme.
Oui, alors là, le tabou est beaucoup plus large. La sexualité uniquement entre hommes et femmes dans le cadre du mariage. Mais il existe tout un courant transgressif, le tantrisme, qui vise une union au divin par une sexualité débridée, perverse et où franchement il fait pas très bon être une femme. Donc on n'est pas non plus dans une vision totalement positive de la sexualité. C'est Olga Serbaeva, une spécialiste de l'hindouisme et en particulier du tantrisme, qui nous en parlera.
Merci Catherine, on vous retrouve donc demain à 10h30 pour en savoir plus sur le tantrisme et la sexualité dans l'hindouisme. Merci beaucoup. Merci également à Sylvain Michel et Stéphane Tornard pour la réalisation de ces émissions. Et puis je vous rappelle que vous pouvez consulter notre page internet si vous souhaitez en savoir plus. Notez la nouvelle manière d'accéder à cette page, c'est rts.ch/esprit.
À vue d'esprit, on se retrouve demain pour la suite de cette série intitulée « Sacrée sexualité ». Nous serons en compagnie de la chercheuse Olga Serbaeva Sarraoghi pour parler de la manière dont l'hindouisme considère la sexualité. Et dans quelques minutes, Entre les lignes s'intéresse aux lectures publiques, les jukebox littéraires mises en place par deux auteurs neuchâtelois, Odile Cornu et Antoinette Richner. Il est 11h sur Espace 2.